Věřme dál socialismus a demokracii.
Vážení přátelé,
uvažujeme i gosti. 27. sjezd
KPSS. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress,
pour la défense de notre sécurité et de tout l'hémisphère occidental, sous l'autorité de la Constitution et du Congrès, j'ai décidé que les premières mesures suivantes seront prises immédiatement. Surveillance de Cuba et de ses installations militaires, si les préparations militaires offensives des Russes à Cuba continuaient, d'autres actions seront justifiées. Les forces armées américaines seront prêtes à toute éventualité.
Dans les mémoires et dans les films d'espionnage, la crise des missiles de Cuba reste le point culminant du risque nucléaire qu'a fait peser la guerre froide sur la planète pendant les années 60. Depuis la révolution menée par Fidel Castro en 1959, Cuba n'est plus sous l'emprise américaine, malgré les nombreuses tentatives de reprise en main de l'île caribéenne. Le coup de force de la baie des cochons a piteusement échoué l'année précédente et Fidel Castro s'est rapproché de l'Union soviétique pour assurer sa sécurité. Moscou étend son dispositif nucléaire au territoire cubain, tandis que les États-Unis s'en aperçoivent avec effroi. Alexandre Riosbordes.
Il y a pour les soviétiques un intérêt à aller mettre des missiles à Cuba dans la mesure où les soviétiques sont en situation d'infériorité. Alors si pendant la campagne américaine, Kennedy a agité contre Eisenhower l'idée d'un missile gap, c'est-à-dire d'un retard américain dans le nombre de missiles et la qualité des vecteurs et donc d'une situation d'infériorité stratégique des États-Unis, la réalité c'est que le missile gap est inverse. Comme va le dire Khrouchtchev au sein du Politburo, entretenant l'idée qu'il y a un missile gap favorable à l'Union soviétique, parce qu'en fait, c'est le contraire. Et donc, cette sensation de faiblesse, il faut essayer de la compenser. Et la décision soviétique de mettre des missiles à Cuba, elle va se comprendre dans cette idée que la présence de missiles soviétiques à Cuba permettra en quelque sorte de rééquilibrer à moyen terme la situation stratégique nucléaire face aux États-Unis. Il y a un troisième élément d'explication, c'est la relation avec le tiers-monde de l'Union soviétique et avec la Chine. Les soviétiques ont engagé, un peu comme les américains, dans la deuxième partie des années 50, un processus de réinterprétation de ce qui se passe dans le tiers-monde et de leur position par rapport au tiers-monde. À partir de 1957-58, l'idée du Politburo, c'est que le tiers-monde, ça devient un espace d'expansion. On peut étendre le socialisme dans le tiers-monde. Ils sont prêts, en quelque sorte, à être libérés de l'ancien impérialisme des puissances coloniales. Il faut les protéger de l'impérialisme américain. Et ce faisant, on va permettre que se déploient des expériences socialistes vers l'extérieur qui permettront d'étendre l'influence de l'Union soviétique. Donc on affiche un soutien à Cuba, dont la présence des missiles, en fait, est le point maximal, en quelque sorte. Quand en mai 1962, Khrouchtchev va prendre la décision de faire installer discrètement ces missiles, c'est pour protéger Cuba. C'est pour protéger Cuba de quoi ? D'une autre baie des cochons. Parce qu'évidemment, dans l'intervalle, entre mars 1960 et mai 1962, il y a eu la tentative américaine de renversement du gouvernement Castro par une opération clandestine de très grande envergure, qui n'avait de clandestine que le nom, c'est-à-dire le débarquement de 1500 exilés cubains, armés, entraînés, équipés par la CIA et par le département de la Défense, l'idée étant de renverser Castro en provoquant un mouvement populaire qui aurait dû venir à l'appui de ce débarquement paramilitaire, qui n'a pas eu lieu. Castro s'est maintenu au pouvoir. Mais à partir de là, évidemment, on peut l'imaginer, à La Havane, on vit dans une situation de hantise d'une nouvelle tentative américaine, que ne viennent pas démentir les tentatives clandestines américaines pour soit renverser Castro, soit l'assassiner. Du point de vue américain, on voit rien venir. Effectivement, les experts soviétiques ont dans un premier temps raison, on voit pas arriver les missiles. Et c'est pourtant pas faute de s'intéresser à Cuba. Et puis Cuba, c'est un problème politique. À la fois un problème politique au sens régional, c'est-à-dire que c'est un très mauvais exemple pour les pays alentours, d'autant que Castro ne cesse de crier à longueur de discours qu'il va soutenir les mouvements révolutionnaires en Amérique centrale et en Amérique latine. Donc on va intensifier les vols du dos au-dessus de Cuba pour vérifier. La crise, elle va démarrer de manière très discrète le dimanche 14 octobre 1962, lorsque sur des photographies de U2 ramenées à Washington, on repère la présence de missiles soviétiques nucléaires de moyenne portée à Cuba. Quelle va être la réponse américaine? Le problème principal qui doit être pris en compte dans cette solution, c'est le risque d'escalade, évidemment. C'est l'idée que s'il y a frappe américaine, plus probablement encore s'il y a invasion américaine, alors il y aura réaction soviétique. On ne sait pas de quel type, sans doute à Cuba, mais il pourra avoir réaction ailleurs. Notamment pour Kennedy, il y aura réaction à Berlin. Et donc Cuba engage Berlin-Ouest, et Berlin-Ouest devra être défendu. Donc Berlin-Ouest engagera les forces américaines dans une guerre, et donc dans une guerre nucléaire avec l'Union soviétique. Donc tout de suite, il y a en arrière-plan l'idée qu'on pourrait aller vers une guerre nucléaire, donc une guerre totale. Le 25 octobre, la tension va brutalement remonter lorsque les U-2 vont révéler que le travail sur les missiles s'est accéléré. Et qu'en fait, les soviétiques se dépêchent de terminer la mise en place des missiles pour qu'ils soient opérationnels au plus vite. Ce que les archives vont montrer dans les années 90, on passe vraiment très près d'une guerre nucléaire pour des raisons triviales. Cet U-2 qui est abattu, il est abattu par un missile soviétique, sachant que Khrouchtchev n'avait pas autorisé le tir de missile contre des U-2. Donc c'est une initiative locale qui fait abattre un U-2, qui fait que l'Air Force revient vers le gouvernement américain en demandant des frappes, faisant monter la tension. Dans le même temps, on a maintenu des contacts secrets entre le gouvernement américain et le gouvernement soviétique, un dialogue secret qui va aboutir à la solution de la crise, à la fin de la journée du 27 octobre, qui est l'idée d'un deal qui est bien missile contre missile, mais différé, c'est-à-dire que les soviétiques doivent d'abord retirer leurs missiles officiellement de Cuba, contre la promesse officielle des États-Unis de ne pas retenter d'envahir l'île. Donc ça, c'était le deal qui avait été proposé le vendredi dans une lettre directe de Khrouchtchev à Kennedy. Et quelques mois plus tard, les Américains ont promis discrètement de retirer leurs missiles de Turquie, et donc de contenter en quelque sorte ceux qui, à l'intérieur du Politburo, étaient pour une position plus dure, et donc de faciliter la sortie de crise pour Khrouchtchev d'un point de vue strictement politique. Donc tout ça se résout finalement assez vite, à la toute fin. L'accord est trouvé. Le 2 novembre, Kennedy va annoncer publiquement que la crise se termine. Le 20 novembre, la fin de la quarantaine est prononcée. C'est la fin, en quelque sorte, officielle de la crise. La tension retombe très vite et puis on sort de la crise des missiles.